enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry Garcin.
Et rebonjour Émilie Chebet.
Vous posez aujourd'hui avec votre invité la question suivante, la guerre sera-t-elle longue au Soudan du Sud?
Voilà, avec notre invité Michel Rimbaud, qui a été d'ailleurs ambassadeur à Khartoum de 94 à 2000 et qui a publié Le Soudan dans tous ses états, c'était chez Cartala 2012, et c'est une guerre évidemment peu connue, peu médiatisée, peu expliquée, et pourtant il y a de quoi. Michel Rimbaud, bonjour.
Bonjour.
Oui. Alors, il faudra rappeler le poids de l'histoire, évidemment, notamment la période du condominium anglo-égyptien jusqu'en 56. Il faudrait se demander pourquoi et comment les États-Unis, en 2005, sont parvenus par la négociation à obtenir la promesse de la partition du Soudan. Celle-ci a été effective en 2011. Il faudrait aussi retracer les péripéties meurtrières qui ont accompagné les premiers pas de l'indépendance du Soudan du Sud. Un nouvel État, enclavé et vite abîmé dans la guerre civile. On dit 12-13 millions d'habitants. Et vous me disiez tout à l'heure, en préparant l'émission, qu'elle est déjà longue, cette guerre civile, puisque nous sommes en 2016 et qu'elle a débuté vers 2013.
Vers 2013, et le Sud-Soudan devenant indépendant deux ans avant. Enfin, la guerre civile a commencé deux ans après les prémices, puisque c'est le limogeage du vice-président et chef du gouvernement, Riek Machar, qui est actuellement en fuite et réfugié à Khartoum, où il a déjà séjourné d'ailleurs, comme dans une vie précédente. Et donc,
quelle est la situation alors, en fait?
Bah, écoutez, c'est un peu le désordre, pour être poli. Hein. Je pense que, en réalité, il y a eu plein depuis le début de la guerre civile qui part avec le limogeage par le président Salva Kiir de son vice-président et chef du gouvernement et tous les ministres pour corruption, soi-disant en juillet 2013. Et donc, ça a déclenché une guerre civile, en fait, qui va commencer en décembre 2013. La corruption n'est qu'un prétexte, même si elle est réelle, elle est un prétexte, car, en fait, la réalité, c'est que quand il est limogé, Riek Machar a eu le malheur de dire la veille qu'il serait candidat à l'élection présidentielle en 2015.
Oui, mais là,
donc, il a perdu son temps, parce que l'élection n'a jamais eu lieu. Salva Kiir était le président, et il n'a pas eu besoin d'élection, il s'est fait renouveler par voie parlementaire.
Donc, si à chaque fois qu'il y a corruption en Afrique, il faut qu'une guerre civile...
C'est pour ça qu'il y a tant de guerres civiles, oui.
Vous répondez à ma question.
Probablement, oui. Mais bon, mais là, c'est pas une façon de dire, parce que la corruption, il y en a partout, finalement, y compris chez nous, je pense. Hein. Il y en a partout. Elle prend des formes diverses. Bon, au Sud-Soudan, je crois qu'on ne se gêne pas, hein, carrément. Mais bon, c'est un prétexte.
Juste d'un mot, on peut rappeler pourquoi c'est tout d'un coup ce besoin urgent de créer un nouvel État. C'était en 2005 et un nouvel État a été créé en 2011.
Bah, le Sud-Soudan, comme on dit, en fait, c'était les Égyptiens qui avaient créé le Soudan tel qu'il a été dans sa forme unifiée, dans sa forme unie, et ce sont les Anglais qui ont créé le Sud-Soudan, en créant un problème, en établissant une espèce de frontière entre les provinces du sud du Soudan, lors du condominium, et en ayant une politique sudiste, qui consistait en fait à faire deux Soudans dans le Soudan unifié.
C'est
et puis en revenant sur leur pas, juste au moment de l'indépendance, en disant... ça doit être un Soudan unifié, donc on remet tout le monde ensemble. Mais ça avait fait beaucoup de dégâts. Donc ils avaient préparé le fait qu'il y ait deux Soudans, alors que ce n'était pas du tout évident.
Alors ce Soudan du Sud, on nous a expliqué pendant 30 ans que les ethnies étaient une création des colonisateurs, que c'était un facteur qui n'existait pour ainsi dire pas, parce qu'il y a toute une école de pensée.
Oui.
Et le facteur ethnique paraît dirimant dans Soudan du Sud.
Mais je crois que il y avait beaucoup d'amoureux du Sud-Soudan et du peuple sud-soudanais. Comme les amis du Sud-Soudan, c'est bien connu. En réalité, on n'a pas besoin d'ennemis quand on a de tels amis, en général. Et donc, les amis du Sud-Soudan disaient qu'il y avait un peuple sud-soudanais. Or, en réalité, le Sud-Soudan est une mosaïque d'ethnies, mais il y a trois ethnies principales. Il y a les Dinka, qui ne sont pas majoritaires, mais enfin, qui doivent représenter un bon tiers, un tiers bien pesé de la population du Sud-Soudan. Et puis, il y a deux autres ethnies qui sont principales, mais tout en étant moins importantes que les Dinka, les Nuer et les Chilukun. Riek Machar, donc le vice-président... Riek Machar est un Nuer. Alors les Nuer habitent dans la région, ainsi que les Chilouks, ils habitent plutôt, c'est dans les régions pétrolières qui sont proches du Nord-Soudan, d'où ils ont une espèce de tropisme, une habitude, ils sont plus proches du Nord-Soudan que les Dinka, la capitale est Juba, c'est près de la frontière ougandaise, donc ça crée des préoccupations. Le Sud-Soudan est un très grand pays en fait en superficie.
Et le Soudan tout seul, ça fait quatre fois la France.
Le Soudan tout seul, ça faisait 2,5 millions de km². Oui. C'était le plus grand pays d'Afrique et du monde arabe, d'ailleurs, en même temps. Et donc, il fait encore le Sud-Soudan. C'est pas le tiers. En fait, il fait encore les trois quarts, le Nord-Soudan. Le Soudan maintenu, comme je dis, il fait encore 1 800 000 km². On dit souvent qu'il a perdu le tiers de sa superficie. C'est les gens qui n'ont pas fait de mathématiques. En fait, il a perdu le quart de sa superficie. Et le cinquième de sa population.
Ouais. Alors, quelle est la situation ? C'est une situation de guerre civile. Oui. C'est insoluble. L'ONU, qu'est-ce qu'elle fait ?
L'ONU... en fait, il y a un mécanisme de suivi. Alors, le mécanisme de suivi, c'est un mécanisme vraiment, c'est très très compliqué, avec des tas de rouages qui grincent plus ou moins, mais qui sont très nombreux. C'est comme dans ces appareils qui ne servent à rien, mais qui sont très complexes, quoi, de structure.
Beaucoup de rouages.
Et donc, il y a le comité de suivi, il y a un comité des partenaires, avec des partenaires, des intervenants internationaux. Alors, il y a les États-Unis, dont la représentante, d'ailleurs, Madame Samantha Power, qui est un des faucons, des faucons américains. Ce qui ne présage rien de bon pour le Sud-Soudan. Et deuxièmement, il y a l'IGAD, l'organisation régionale, il y a l'Union africaine, il y a des pays comme la Grande-Bretagne qui font partie des amis du Sud-Soudan. Qu'est-ce qu'il y a encore ?
Puis, est-ce qu'on va mettre, il est question qu'on mette une force de casque bleu, on va dire, pour s'impliquer ?
En réalité, il y a une MINUS, qui veut dire la mission des Nations Unies pour le Sud-Soudan, qui a été incapable de rétablir l'ordre, mais qui est là-bas. C'est un sigle malheureux, mais c'est vrai qu'elle porte bien son nom. Et donc, elle est complètement impuissante. Hein.
On parle d'envoyer 4 000
hommes. Alors, il y avait dans la résolution qui renforçait la MINUS, qui remonte à, je pense, quelques mois, il était prévu un mandat de la MINUS, elle y est depuis un moment, et une force de protection pour assurer la sécurité au Sud-Soudan, notamment à Djouba, dans la capitale. C'était une des conditions pour que Riek Machar, le vice-président, daigne rester dans la capitale, parce qu'il sentait à juste titre, d'ailleurs, sa sécurité menacée. Un des grands enjeux de faire venir le vice-président ou revenir le vice-président dans la capitale pour reprendre son poste.
D'autant qu'il a un concurrent qui est lui-même vice-président.
Il a fini par fuir Djouba après être revenu en début d'année vers le printemps. Il est revenu parce qu'il y avait beaucoup de pression pour l'inciter à reprendre son poste après le dernier accord de cessez-le-feu et de partage du pouvoir. Il avait fui, il est revenu, il a fait un bref séjour à Djouba et puis il est reparti quelque part dans le beau mois d'août. Il a quitté Djouba pour une destination inconnue. On dit qu'il est parti vers le Congo, mais en fait il a atterri à Khartoum, donc la capitale du Soudan maintenu, mais il avait déjà ses quartiers d'été et d'hiver, puisqu'il avait déjà été adjoint du président Omar el-Béchir pour les affaires du Sud-Soudan, après un premier accord de paix qui avait été signé en 1997, qui est complètement oublié, mais ça s'appelait l'accord de paix de Khartoum, qui était d'ailleurs identique à celui qui serait signé à Navasha, qui allait amener donc à l'autodétermination du Sud-Soudan, mais donc il avait été le président de la coordination pour le Sud-Soudan.
Juste d'un mot pour conclure, qui profite du crime à l'extérieur, puisque je parle à l'ambassadeur ou à l'ancien ambassadeur, ça pose la question récurrente pour ce type de conflit de la tutelle de l'ONU, parce qu'il y a eu des tutelles au Kosovo, il y a eu des tutelles au Cambodge pendant 2 ans, etc. Est-ce que ce type de situation ne mériterait pas ? Je referme la question parce qu'on n'a pas le temps. À qui profite le crime ?
Il y a du pétrole au Sud-Soudan, puisque dans la partition du Soudan, finalement, le Sud-Soudan a hérité de 70% de l'héritage pétrolier. Donc ça explique. Donc il y a une connotation ethnique dans la rivalité Machar, Salva Kiir, et puis il y a une connotation pétrolière très forte, hein, avec deux stratégies qui s'opposent, l'une de collaboration avec le gouvernement du Nord-Soudan, et l'autre avec de collaboration plutôt avec l'Ouganda, le Kenya, etc., etc. Donc c'est ça. Le crime profite, tous ceux qui ont intérêt à ce que le bazar organisé ou non organisé subsiste au Sud-Soudan. C'est-à-dire les États-Unis et Israël, ce sont les deux grands artisans de la sécession du Sud-Soudan depuis longtemps. C'était vraiment un rêve. On dit que c'est un triomphe de ces deux diplomaties quand il y a eu la sécession en juillet 2011.
Voilà, écoutez, on y reviendra. Michel Rimbaud, merci beaucoup. Je rappelle que vous avez été ambassadeur à Khartoum, donc de 1994 à 2000. FranceCulture.fr pour écouter l'émission et bien sûr la télécharger.